Seigneur, notre Dieu, toi qui es la source de toute sagesse, de toute vérité, toi qui es l'auteur de notre salut par Jésus-Christ, veuille nous assister par ton Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, je voudrais terminer ce cours en vous présentant rapidement trois ouvrages de Bonaventure. Je vous ai mis leur titre au tableau. Le premier, c'est les questions sur le savoir du Christ que Bonaventure a écrit en 1254. Le second, c'est l'Initerarium in mentis in Deum, qu'il a fait en 1259, et enfin, nous verrons son commentaire, sa présentation des six jours de la création. Vous savez qu'en grec, six se dit là, et vous savez que c'est les jours, donc c'est l'œuvre des six jours. Et alors, c'était courant au Moyen-Âge de parler d'exa emeron, et c'est d'ailleurs sous ce titre in. Et ça, Eméron, sur les six jours, entendu, de la création ou de la Genèse, que Bonaventure a écrit cet ouvrage. Donc, c'est alors, je vais commencer par les deux derniers, parce que l'ouvrage de Bonaventure sur les questions sur le savoir du Christ touche à un point délicat de la théologie. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un peu plus longuement sur ce troisième ouvrage, qui est donc le premier dans l'ordre chronologique, mais c'est par lui, je le répète, que je termine. Alors d'abord, l'itinerarium mentis in deum, qu'on a traduit quelquefois itinéraire de l'âme vers Dieu, mais en réalité, il ne s'agit pas tellement de l'âme, il s'agit plutôt de l'intelligence, il s'agit donc d'un itinéraire de l'intelligence vers Dieu et non pas de l'âme. Enfin, vous trouverez des œuvres où on dit de l'âme. Dans la traduction que j'ai, qui comporte à la fois le texte latin et la traduction, vous voyez que c'est une œuvre toute petite, puisque ça tient en une brochure et que j'ai sur une page le latin sur l'autre français, donc c'est un tout petit ouvrage là. Il a été traduit « Itinéraire de l'esprit vers Dieu ». Évidemment, tout dépend de la définition qu'on donne, soit au mot « âme », soit au mot « esprit », mais j'aurais préféré, moi, je pense que c'est plus proche de ce qu'a voulu Bonaventure que de dire « l'itinéraire de l'intelligence vers Dieu ». Bien entendu, il ne s'agit pas d'un itinéraire qui conduirait d'une autre foi que la foi chrétienne à la foi chrétienne. Autrement dit, il ne s'agit pas de l'itinéraire du juif ou du païen vers le Dieu trinitaire, mais il s'agit de l'itinéraire du chrétien, qui, en son intelligence, rapporte toute chose de l'existence et du créé vers la louange de Dieu. Autrement dit, le but de Bonaventure, c'est de montrer comment, en cheminant, en progressant, le chrétien veille à tout rapporter à Dieu. Et donc, n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un itinéraire qui conduirait de la non-foi ou d'une autre foi que la foi chrétienne à la foi chrétienne, mais c'est, si je dis, de l'itinéraire du chrétien qui rapporte toute réalité à Dieu et à la louange de Dieu. Au fond, c'est le trajet du chrétien fidèle élevant son esprit vers le Créateur et Sauveur, et cela à partir même des réalités les plus terrestres, et aussi à partir de soi-même. Au fond, ce qui me paraît important dans ce petit ouvrage, dans cet opuscule, on pourrait dire dans cette brochure de Bonaventure, qui est une œuvre de sa maturité, c'est qu'elle nous indique comment le chrétien doit rapporter toute chose de sa vie au Seigneur. Et chose de réintégrer au Seigneur. Alors, je vous ai mis là un nom, c'est un homme inconnu pour vous, bien sûr, Victor Poussel. Victor Poussel a écrit entre 1937 et 1945, donc juste avant la guerre pour les premiers volumes et pendant la guerre pour les autres volumes, il a écrit un livre, c'est un jésuite qui a écrit un livre, plutôt un ouvrage en six volumes, il y a six volumes, qui s'appelle Mystique de la Terre. Et bien que étant jésuite, donc d'un tout autre ordre que le franciscain qui était Bonaventure, au fond, Victor Poussel fait la même chose que ce qu'a essayé Bonaventure dans son itinéraire. C'est-à-dire qu'il rapporte toutes choses à partir des réalités les plus matérielles à Dieu. Et au fond, comment le chrétien, quelle que soit la chose qui occupe son esprit, doit pouvoir rapporter cette chose au Seigneur. Ici, je vous fais, puisque vous êtes destiné pour la plupart à être pasteur plus tard, je vous signale là un fait important pour la nudésie, c'est-à-dire pour l'entretien que vous pouvez avoir comme pasteur avec quelqu'un. C'est que, quelle que soit la chose dont vous aurez à parler, même s'il s'agit de la pluie et du beau temps, vous avez l'occasion, si vous avez vraiment la foi chrétienne, de rapporter votre sujet au Seigneur. Autrement dit, c'est une erreur de penser que pour évangéliser, il faut tout de suite partir de la conversion, du péché. Non, on peut partir de n'importe quoi. On peut partir de n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que rien n'arrive, rien n'existe. Or, la puissance, la providence, la seigneurie du Dieu trinitaire. Et au fond, c'est ça la grande leçon de Bonaventure, et c'est aussi la grande leçon du Père Poussel dans son ouvrage Mystique de la Terre. Au fond, nous avons une invitation constante, quel que soit le sujet que nous abordons, à montrer comment ce sujet est en rapport avec le Dieu trinitaire, et donc en rapport avec le Dieu créateur, et donc en rapport avec le Dieu sauveur, et donc, quel que soit le sujet, c'est bon. Vous savez, souvent, on pense que l'entretien pastoral, c'est un entretien qui doit être, si j'ose dire, bloqué uniquement sur l'évangile au sens le plus strict du mot, à savoir la grande parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Non, l'évangélisation touche à tout, parce que Dieu touche à tout, parce que Dieu est le Seigneur du tout et en même temps le Sauveur du tout. Donc, rapporter toute chose à Dieu. Et alors le but de Bonaventure dans son itinéraire, c'est de montrer cela. Montrer cela. Et en ce sens, il est tout à fait augustinien. Et en ce qui est plus important que d'être augustinien, il est tout à fait biblique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans l'ensemble de ses ouvrages, en particulier dans le second ouvrage dont vous parlerez, à savoir son commentaire sur les six jours de la création. Donc, nous avons là un petit livre dont la pointe, dont le sens profond est capital. C'est très important que, comme chrétiens, nous saisissions que notre Dieu créateur et sauveur, le Dieu dont la Bible nous rapporte et l'Évangile et la loi, ce Dieu-là est derrière toute chose et au-dessus de toute chose et d'une certaine manière en toute chose. Donc, voilà l'important de ce petit. Je ne peux pas, bien sûr, entrer dans le détail, mais je vous ai dit quand même les titres des chapitres de Bonaventure, il y en a sept, et les conclusions de ces sept chapitres. Premier chapitre, contemplation de Dieu par ses vestiges dans l'univers. Par ses vestiges dans l'univers. Et le second chapitre, contemplation de Dieu dans ses vestiges à travers l'univers. Alors vous voyez, ces deux chapitres qui n'ont comme différence, si je puis dire, que le mot « par » dans le premier chapitre et le mot « don » dans le second chapitre. Contemplation de Dieu par ses vestiges dans l'univers et contemplation de Dieu dans ses vestiges à travers le mot « sens ». C'est important de voir l'emploi que fait Bonaventure du mot « vestige ». C'est la différence du mot qu'il emploie dans les chapitres 3 et 4, et je vous donne ces titres, contemplation de Dieu par son image gravée en nous, et contemplation de Dieu dans son image reformée par les dons de sa grâce. Alors voyez la différence entre le mot vestige et le mot image. La différence entre le mot créé autour de nous, on pourrait dire d'une certaine manière le monde subhumain, et le monde de l'homme, c'est qu'il y a des vestiges de Dieu dans toutes les réalités du monde créé. Au fond, il y a une marque de Dieu, une empreinte de Dieu, un vestige de Dieu dans tout ce qui existe. Ça, c'est une reprise de l'affirmation biblique, à savoir que quoi que nous regardions, que nous contemplions, que ce soit le ciel étoilé ou que ce soit la moindre petite fleur, que ce soit une petite bestiole ou un animal féroce, de toute manière, il y a un vestige de Dieu dans toute cette création de Dieu. Et alors, donc, nous pouvons tout rapporter à Dieu du vestige passé au Dieu créateur et sauveur. Et ensuite, pour l'homme, eh bien, il n'emploie plus le mot vestige. Bien sûr aussi que l'homme est un porte des vestiges de Dieu, mais il est image de Dieu. Vous voyez la différence entre vestige et image. Et dans les deux premiers chapitres, il s'agit des vestiges de Dieu dans l'univers. Dans les deux chapitres suivants, il s'agit de l'image de Dieu en l'homme. Ça, c'est les chapitres 3 et 4. Ensuite, les chapitres 5 et 6, c'est d'abord la contemplation de Dieu dans ce qu'il est l'être. Vous savez que dans la vision du buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse comme « Je suis qui je suis ». Aïe, cher Aïe, je suis qui je suis. Mais attention, Dieu est donc l'être. Il est celui qui veut dire « je suis », d'où l'importance dans le Nouveau Testament de tous les « je suis » de Jésus-Christ, qui sont des affirmations de sa divinité. Quand Jésus dit « je suis la résurrection et la vie », ou même si on traduit bien du grec, il n'y a pas seulement « ennemi », mais il y a « ego ennemi », « je suis moi la résurrection et la vie ». Et le fait qu'il dit « ego ennemi », « moi je suis », c'est un rappel que Dieu est celui qui est l'être. Par excellence, il peut dire « je suis ». Et comme je crois que vous l'avez déjà dit, au fond, ce n'est pas très juste d'employer le verbe « être » quand il s'agit de nous, parce que nous ne sommes pas. Dieu seul est. Nous existons, et dans le mot « exister », il y a deux mots grecs qui indiquent que l'on tire sa réalité de « ex ». Donc, nous existons. Tandis que Dieu, lui, n'existe pas. Parce que si l'on dit que Dieu existe, au fond, c'est comme si nous affirmions qu'il tire sa réalité d'autre chose que de lui. Mais Dieu est. Donc, il y a un emploi du verbe être, qui est l'emploi du « je suis » aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, pour caractériser Dieu. Et au fond, c'est le mot intraduisible. C'est une erreur d'avoir dit « Jéhovah ». C'est une erreur tout aussi grande que de dire Yahvé, et vous savez que les Juifs ne prononçaient pas le nom mystérieux de Dieu, parce que justement, dire Yahvé ou dire Jéhovah, ça ne veut rien dire du tout. Étant donné que en français, il faudrait mettre le je suis. Et c'est pour ça que vous savez que les Anglais mettent simplement à la place Lord, le Seigneur, et au fond, dans une traduction comme celle de Chouraki aussi, c'est qui est employé, c'est à savoir, c'est pas prévu de dire aussi l'Éternel. Il faudrait dire le Seigneur parce qu'on ne veut pas prononcer le nom à la fois mystérieux et ineffable de Dieu qui est Je suis. Je suis encore disant Je suis, nous sommes loin de bien signifier tout ce qui est éveillé dans le tétragramme, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans ce mot mystérieux dont on ne sait même pas comment les Juifs le prononcer, pour une raison très simple, c'est que les Juifs ne le prononçaient pas. Quand il y avait ce mot, il disait Adonai, le Seigneur. Il ne voulait pas prononcer. C'est pour ça que je regrette beaucoup que dans certaines traductions, dans l'Ancien de l'Ancien Testament, on mette quelquefois Jéhovah, que dans des traductions plus modernes, on mette Yahvé, parce que c'est indiqué la prononciation du mot qui n'était pas prononcé. Et c'est pour ça que je crois que c'est bien mieux de dire le Seigneur, comme font les anglo-saxons, ou bien alors il faudrait mettre un espèce de dessin dans la Bible de Chouraki. Il y a, vous savez, une composition très spéciale pour marquer que là, il s'agit du mot mystère. Bon, alors, vous avez donc la contemplation de Dieu par son premier nom, qui est Je suis, et puis dans la sixième, vous avez la contemplation de la Trinité, parce que là, Bonaventure veut tout de suite montrer que Dieu est à la fois un et multiple, il est à la fois un et trois, il est à la fois, dirons-nous, avec le Nouveau Testament, et bien plus avec les grandes confessions ecuméniques, il est à la fois le seul Dieu, le seul vrai Dieu, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et enfin, par un septième et dernier chapitre, Bonaventure parle de cette sorte d'extase dans laquelle finalement nous nous trouvons, parce que notre intelligence trouve son repos, dit-il, parce que toute sa foi passe en Dieu. Donc vous voyez, à partir des vestiges de Dieu que sont les réalités les plus physiques, les plus matérielles, à partir de l'image de Dieu, à partir du nom de Dieu, le nom Je suis et le nom Père, Fils, Saint-Esprit de la Trinité, eh bien, tout est rapporté. Nous rapportons toutes choses, y compris nous-mêmes, à celui qui est l'unique Créateur et Sauveur. Voilà le sens de l'itinéraire dont parle Bonaventure. Ensuite, alors là, l'itinéraire a eu quand même en français une traduction assez ancienne, puisque elle est, là j'ai la réédition en 1990, mais si je regarde attentivement, je m'aperçois que c'est une traduction qui avait été déjà publiée elle avait été achevée en 1948, mais publiée en 1960. Donc la petite édition que j'ai là, qui est d'ailleurs à la bibliothèque, c'est une édition qui est récente, une réédition. Le deuxième livre dont j'ai parlé il y a quelques mois, alors là, n'avait jamais été traduit en français avant l'année dernière. Oui, c'est ça. Le dépôt légal est de octobre 91, c'est-à-dire que ça a paru en librairie il y a moins de 6 mois. Alors c'est la première fois qu'on a cette œuvre de Bonaventure sur les 6 jours. Alors le titre qu'on a mis là, c'est les 6 jours de la création, mais en latin, c'est in exaimeron, c'est-à-dire sur les 6 jours. Sur les 6 jours. Voilà le titre de cette œuvre de Bonaventure. Alors cette œuvre de Bonaventure sur l'exaïméron, c'est une œuvre qui est comme le testament de Bonaventure. En effet, de Pâques à la Pentecôte de 1273, c'est-à-dire quelques mois avant sa mort, mettons un an avant sa mort, eh bien ce sont les conférences que Bonaventure a adressées, les conférences prédications que Bonaventure a adressé à l'université de Paris, ou plutôt au tout Paris intellectuel de l'époque, et c'est un livre qui a une poète polémique, parce que c'est le moment où Aristote commence à faire des siens. Aristote, je dirais, commenté par Averroès. Et au fond, il y a un blocage déjà de la théologie sur l'Aristoteles. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, au moment où Bonaventure, à l'école des franciscains, fait ses conférences en 1273, eh bien, l'université de Paris, par ordre de la hiérarchie, vient d'être fermée. C'est-à-dire qu'on considère que l'enseignement d'Aristote commence à présenter pour la foi chrétienne de tels dangers. Parce que pourquoi? Parce que c'est une philosophification de la théologie. Au fond, ça ramène la théologie à une sorte de philosophie aristotélicienne et c'est un danger pour la foi. Eh bien, Bonaventure fait ses conférences, prédications sur les six jours de la création pour contrer et abattre, si l'on peut dire, la place prépondérante qu'Aristote commence à prendre. C'est là la grande différence, je vous le signale, entre Bonaventure et son contemporain Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin va vraiment introduire Aristote dans la théologie. Bien sûr, il baptise Aristote, je veux dire qu'il le tourne un peu, il le christianise, mais n'empêche que Aristote va prendre une place considérable dans la pensée théologique à partir de Marx, d'ailleurs, qui sera indiqué comme le grand docteur de l'Église au XIXe siècle, et ce sera réitéré au début du XXe siècle, en particulier par le pape Pie X. Et c'est très grave. La situation est grave. Il y a une invasion de la théologie par Aristote. Et Bonaventure affirme que l'Écriture seule doit avoir autorité en théologie, il est très dans la ligne augustinienne, et dans la ligne que reprendront d'une façon différente, mais que reprendront aussi les réformateurs. Donc, au fond, l'Écriture est autorité, et on ne peut pas mettre à côté l'autorité de l'Écriture, celle d'Aristote, et encore moins placer l'autorité d'Aristote, dans certains cas, au-dessus de l'Écriture. D'ailleurs, c'est une constante dans toute l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'il y a un philosophe qui apparaît, tous les théologiens, pour se montrer à la page, se jettent sur le nouveau philosophe, et alors on arrive à une philosophie chrétienne cartésienne, à une philosophie chrétienne kantienne, à une théologie chrétienne husserlienne ou heideggerienne, etc., etc. Bref, c'est un danger constant. Les théologiens ont la démangeaison pour être à la mode de se jeter sur le premier philosophe venu et d'essayer d'accommoder l'enseignement de l'Écriture à l'enseignement de ce philosophe. Ou, si l'on veut, d'accommoder ce philosophe à l'enseignement de l'Écriture, mais au fond, ça revient au même. Finalement, on place à côté de l'Écriture l'autorité d'un. Donc, combat de Bonaventure, et c'est un combat qui l'a mené tambour battant. Alors là, je voudrais quand même vous dire rapidement quelque chose. Vous savez que il y a une question qui se pose très souvent au sujet de l'Écriture sainte, c'est la fameuse question du sens littéral. C'est une question du sens littéral. Et quelquefois, le danger, surtout chez les protestants, et même quelquefois chez certains protestants qui se veulent résolument critiques, résolument évangéliques, le danger, c'est de vouloir s'en tenir stricto sensu au sens littéral. Il n'y a que le sens littéral. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Par exemple, on affirme péremptoirement que dans l'Écriture, il n'est jamais question d'allégorie. Et qu'au fond, le sens allégorique est un sens qu'il faut rejeter. Je pense que c'est très dangereux de donner de telles affirmations. Pourquoi? Parce que déjà, certaines paraboles de Jésus, pas toutes les paraboles, mais certaines paraboles de Jésus, sont allégoriques. Et nous avons un exemple dans la bouche de Jésus lui-même. C'est l'exemple de la parabole dite du semeur. Quand Jésus explique la parabole du semeur, il donne de la parabole du semeur une explication allégorique. C'est comme ça. De même, quand Saint Paul commente certains textes de l'Ancien Testament, il le fait de manière allégorique. Je pense par exemple à deux passages de Saint Paul. Le premier dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 10. Là, il s'agit de la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, et il s'agit aussi du rocher spirituel. Lorsque le peuple juif est au désert, Saint Paul fait une exégèse allégorique sur ces deux points, à savoir que nous sommes baptisés au sens où le peuple juif a été baptisé. Il donne une expression allégorique du baptême de la mer Rouge, et surtout, il donne une explication allégorique du rocher spirituel. Si on entend au sens littéral, eh ben, il y a eu un rocher spirituel, et lorsque Moïse a frappé le rocher, l'eau en a jailli. Mais Saint Paul enseigne, il dit, attention, ce rocher spirituel, qui d'ailleurs, on va pour un rocher, il faut y aller, ce rocher spirituel que suivaient les Juifs, vous voyez, c'est le Christ, c'est le Christ. Bon, voilà une explication allégorique. Autre explication allégorique, celle-là se trouve dans la lettre aux Galates, c'est lorsque Saint Paul montre que Abraham a eu deux fils, un fils qui était de la serpente, Agar, et un fils qui était de la femme libre, Sarah. Bon, eh bien, dit Saint Paul, et il emploie même le mot, c'est de l'allégorie. Saint Paul le dit carrément, c'est de l'allégorie. Et il donne un sens allégorique de ce passage. Donc, il faut faire attention. Jésus lui-même a donné une explication allégorique d'une de ses paraboles. Saint Paul nous donne des explications allégoriques du passage d'Israël dans la mer Rouge, du rocher frappé par Moïse, et nous avons aussi l'explication allégorique des deux fils d'Abraham, celui de l'esclave et celui de la femme libre. Donc, dans l'Écriture elle-même, nous avons des exemples, et venant d'en haut, venant de Saint Paul et surtout venant de Jésus, dans le sens allégorique. Et il y a un livre dont je vous recommande la lecture, il y a deux livres dont je vous recommande la lecture. Il y a un livre qui s'appelle Exégèse médiévale, et qui est d'un très grand théologien catholique, le père de Lubac, Henri de Lubac. D'ailleurs, le père de Lubac est aussi l'auteur de notre livre, probablement qu'il n'a pas de rapport direct avec le propos, qui s'appelle simplement catholicisme. Il ne faut pas que l'entendre, c'est pas du tout un livre sur l'Église catholique, ni sur la doctrine catholique. Mais c'est un livre qui montre, si vous voulez, l'impact universel de l'Évangile. Mais l'exégèse médiévale, c'est un livre passionnant. C'est un ouvrage, d'ailleurs, en tout cas, en deux volumes. Je crois que c'est deux volumes. C'est un livre passionnant. Et il a un livre protestant assez récent, qui est un livre écrit par David Chilton. Alors, le titre, je m'en rappelle exactement. Il y a le paradis,
l'histoire.
Le second mot, Mécha, c'est le paradis retrouvé, c'est un livre dont je reconnais, et ce sont des livres qui nous montrent.
Restore.
Comment?
Restore.
Ah voilà. Alors, je vous recommande la lecture d'Exégèse médiévale du Père Lubac et de ce livre de David Chilton, qui montre que c'est en occidentaux, et en occidentaux plus ou moins rationalistes, je ne dis pas rationalisés, mais qui sont victimes du rationalisme, que nous voulons nous en tenir toujours et partout stricto sensu, au sens littéral. Et c'est je prends un exemple. Lorsque le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le futur », je vous ai déjà dit. À l'heure actuelle, on a pensé qu'il y avait là je ne sais quel relent de panthéisme, plusieurs points d'interruption, qui ne sont pas du tout d'ailleurs le texte hébraïque, et ensuite, une question, d'où me viendra le secours? Vous voyez la différence entre « je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours » et « je lève mes yeux vers les montagnes, Alors, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on a... Et d'où me vient mal. Or, si je lève mes yeux vers les montagnes, je me dis, pourquoi? Parce que les montagnes, dans l'écriture sainte, ce sont des montagnes spécifiques. Et il faut entendre l'expression en un sens symbolique. Pourquoi? Parce que quelles sont ces montagnes? Eh bien, il y a la montagne du paradis, d'où coulent les quatre fleuves. Il y a la montagne du Sinaï, Moïse reçoit la loi. Il y a la montagne de Sion, il y a la montagne du sermon sur la montagne, etc. Autrement dit, il y a des moments forts dans la révélation qui sont des montagnes. Et de ces montagnes, de la révélation, nous vient le secours. Autrement dit, il faut bien garder, je lève mes yeux vers les montagnes d'où vient le secours. Ça ne veut pas dire, je lève mes yeux sur le Mont Blanc, je peux lever mes yeux sur le Mont Blanc, pour admirer les vestiges du Créateur, pour employer le vocabulaire de Bonaventure. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, au sens symbolique, de ces montagnes d'où Dieu s'est révélé. Autrement dit, ça veut dire, je lève mes yeux vers eux. Oui, le sens. Alors, ce n'est pas du sens littéral, mais c'est tout à fait biblique. Et on est tout à fait fidèle au sens de la Bible en faisant une prédication sur les données que je viens de rapidement jeter devant vous. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Vous voyez, donc faisons très attention. David Chilton le montre très bien dans son livre. Il faut faire très attention à ne pas être littéral. Puisque j'en suis à vous faire des confidences, je terminerai en vous disant, c'est que il y a, j'avais un ami autrefois, c'était un groupe de personnages, c'était, je ne vais pas se raconter un peu la vie de mon ami orthodoxe, non? Le père Valentin, je ne sais jamais.
Non.
C'était un de mes amis, le père Valentin, et le père Valentin, il me disait, pour défendre contre le sens littéral, il disait, vous savez, il faut faire bien leurs choses. Il faut faire bien leurs choses. Parce qu'au fond, nous voyons toujours la Bible, et surtout vous, quelquefois les protestants, comme une galette. Une galette. Alors ça peut être très bon, une galette. C'est pas la question, c'est pas mauvais, mais c'est quand elle est bien faite, une galette. Mais il disait pas du tout. La révélation, c'est comme une pâte feuilletée. Hein, la différence, c'est qu'avec la galette, on a bien un sens, mais on se refuse à aller au-delà du sens littéral. Et on ne voit pas toutes les correspondances qu'il y a dans l'écriture. C'est pour ça qu'on est très dérouté quelquefois en lisant le livre de Saint Bonaventure sur les six vocations. Parce que c'est époustouflant de voir la connaissance presque par cœur qu'a Bonaventure de l'écriture sainte. Alors évidemment, je m'empresse de dire qu'il faut faire attention à ne pas pousser les allégories dans des sens qui ne peuvent pas être justifiés. Il y a des sens qui ne peuvent pas être justifiés. Par exemple, quand on nous parle dans le Cantique des Cantiques, de l'amant qui se repose entre les seins de sa bien-aimée. Alors, explication allégorique, Jésus-Christ est là. Il repose sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, alors ça, c'est une allégorie que j'appelais absolument gratuite. Et alors on peut expliquer Cantique des Cantiques, et d'ailleurs on peut voir d'autres choses. On peut dire à la place de l'Ancien et Nouveau Testament, on peut dire la loi et l'Évangile, ou on peut dire. Bon. Mais là, on est dans une gratuité qui n'a plus de lien avec l'Écriture. Tandis que, quand je vous ai parlé tout à l'heure, je lève mes yeux vers les montagnes, c'est pas de la gratuité. C'est pas de la gratuité. L'exégèse allégorique, là, est dans le sens biblique global et aussi particulier dans son sens. Autrement dit, il faut faire attention. Il y a un allégorisme dont Philon a été le père et que, quelquefois, dans Bonaventure, on se trouve devant des fantaisies allégoriques. Voilà. Il ne faut pas vouloir entrer dans des fantaisies allégoriques. Il faut en rester toujours à la soumission à l'écriture, mais il faut bien entendre, non pas le sens strictement littéral, mais ce qui se cache derrière ce sens littéral à partir d'autres données de l'écriture. C'est l'analogia scripturae, c'est l'analogie de l'écriture, ou c'est l'analogia fidei, l'analogie de la foi. Hein. Donc, faisons bien attention. Alors, je quitte maintenant l'hexaëmeron. J'avais noté des passages, et puis finalement, je m'aperçois que je n'ai pas le temps de vous les lire, mais ça, c'est une chose. J'ai un cours beaucoup trop ramassé dans le temps. Et alors, je voudrais aborder, pour finir, les questions discutées sur le savoir chez le Christ. Oh, c'est dommage que dans notre faculté, on n'ait jamais vraiment réussi à avoir de telles questions discutées. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le maître, le professeur, l'enseignant, le senior, si vous préférez, se trouve avec les étudiants. Déjà, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ne le sont pas encore, mais tout le monde est là. Et puis on met sur le tapis, c'est une expression symbolique aussi, vous savez, il ne doit y avoir de tapis. Et encore, mais on met sur le tapis une question et on voit tous les arguments pour ou contre la solution de la question. Et c'est ça, au fond, ça c'était la méthode scolastique, mais dans un bon sens. Il y a des questions disputées de Saint Bonaventure, il y a des questions disputées de Thomas d'Aquin, et je dirais que les réformateurs, quelquefois, ont eu de telles questions disputées. Par exemple, il y a eu des questions disputées comme la question de la prédestination, etc. On met une question sur le texte, et puis on recherche, contre la solution proposée, tous les arguments qu'on peut trouver, et pour la solution proposée, tous les appuis. Et aussi, on peut avoir référence à d'autres textes de l'écriture, à une variété de textes de l'écriture, à une variété d'autorités comme celle des pères ou des grands docteurs. Bon, et puis, on essaie d'y voir clair. Alors, dans la question discutée sur le savoir du Christ, il y a du très bon chez Bonaventure, et en même temps, il y a un blocage. Et je dirais que c'est dommage qui est ce blocage. D'abord, posons un peu la question. Bonaventure montre, et c'est la bonne partie de sa démonstration, qu'au fond, de même que dans le Christ, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine, de même qu'il y a deux volontés, ça vous savez, il y avait les monothélètes qui enseignaient qu'il y avait une seule volonté, non ? Il y a deux volontés affirmées. Et alors, va plus loin, il y a deux savoirs, ou il y a deux connaissances, ou il y a deux sagesses. À savoir, la sagesse incréée, celle qui appartient à la divinité, et la sagesse créée, celle qui appartient à l'humanité. Et au fond, Bonaventure montre très bien comment, de même que Jésus, tout au long de sa vie, a tendu à soumettre sa volonté créée, humaine, à la volonté incréée, divine, et bien de même, Jésus a grandi en sagesse, non pas seulement parce que de plus en plus sa sagesse d'homme s'est développée, selon la parole qui grandissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, mais que Jésus, de plus en plus, a, par sa communion avec son Père, il a rangé sa sagesse créée à la sagesse incréée. Bon. Alors, ça c'est le positif dans Bonaventure. Au fond, il a bien tenu compte que Jésus n'était pas seulement vere Deus, vraiment Dieu, mais qu'il était aussi vere homo, vraiment homme. Ça c'est la grande confession des conciles écumés. Mais, il y avait une question à soulever, et qui a été soulevée avant, et qui a été soulevée depuis Saint Bonaventure. Et c'est une chose à laquelle Bonaventure, dans tout son traité, ne fait aucune allusion. C'est la fameuse parole qui se trouve, si je me souviens bien, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus affirme que quand à l'avenue du Seigneur, Nul ne sait ni le jour ni l'heure, même pas les anges, même pas le Fils, mais seulement le Père. Donc il y a là la question d'une ignorance affirmée de Jésus-Christ. Et je dirais, là, Bonaventure n'y touche pas. C'est étonnant, parce qu'en général, Bonaventure, comme d'ailleurs les grands scolastiques aussi, comme Thomas d'Aquin, ils amènent vraiment à propos d'une question disputée tout ce qui peut toucher à la question. Et s'il y a une affirmation biblique qui touche à la question, c'est bien celle-là. Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, ignorait le jour et l'heure de la venue du Seigneur? Est-ce qu'il était dans l'ignorance? Parce que ça met en cause bien des choses. Et il n'y a pas de réponse de Bonaventure dans ce cas-là. C'est pour ça que je dis, il y a à la fois du bien, un bien solide, à savoir que Bonaventure démontre qu'il y a deux sagesses en Jésus-Christ, la sagesse incréée et la sagesse créée, mais il y a le défaut, c'est qu'il ne touche pas à cette question fondamentale. Et alors, à partir de Bonaventure, les choses sont allées se gâtant. Et au point que, je regarde la date, il y a eu un décret du Saint-Office en 1918, donc plus de 6 siècles, 7 siècles après Bonaventure, c'est qu'il y a eu un décret du Saint-Office, donc un décret du pape, en 1918, nous disant que il ne faut pas comprendre ce passage, qu'on ne doit pas comprendre ce passage de Marc et de Matthieu comme indiquant une ignorance de Jésus-Christ, mais au fond, ce texte veut dire que le moment pour Jésus de faire connaître ces choses à ses auditeurs n'était pas encore venu. Alors là, c'est quand même curieux. C'est curieux. Et alors, Saint Thomas d'Aquin, déjà, avait signalé deux textes de l'Écriture. D'abord, Acte 1-7, « Ce n'est pas à vous, dit Jésus à ses disciples, de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Hein? » Et ensuite, Genèse 22-12, dans lequel Dieu dit à Abraham, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors, Saint Thomas rapporte ces deux textes au texte de Marc 13 et au sujet de l'ignorance de Jésus, dit non, Jésus ne l'ignorait pas, mais ce qu'il a voulu dire, c'est que, or, ça ne colle pas du tout avec le sens du texte, puisqu'il est dit dans le texte que même les anges, même le Fils, l'ignorent. Donc, c'est escamoter ce texte dans la question du savoir du Christ que de dire qu'il ne dit pas ce qu'il dit. Ça me rappelle le fameux entretien entre Bossuet et Claude au XVIIe siècle, lorsque Bossuet et le pasteur Claude avaient eu un entretien sur l'Eucharistie, sur la Sainte Seine, et Claude disait, mais enfin, vous interdisez aux fidèles de boire le vin au moment de la célébration eucharistique. Or, précisément, au sujet du vin, Jésus a dit « Buvez-en tous !» Et Bossuet avait répondu à Claude « Oui, mais l'Église sait ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Buvez-en tous !» Et Claude avait répondu « Oui, l'Église romaine est formidable, elle sait que quand Jésus a dit « Buvez-en tous », il voulait dire « N'en buvez pas tous !» Et alors, vous avez exactement la même chose là, au sujet de ce passage de Marc 13 sur l'ignorance de Jésus. Les réformateurs, dans leurs commentaires, ont pris à cœur cette question du savoir. Et au fond, il y a eu un livre aussi très intéressant de Max Dominicé sur l'humanité de Jésus selon Calvin, c'est un texte très ancien qui a été publié, si je me souviens bien, en 1932-33. Et dans ce livre sur l'humanité du Christ selon Calvin, Dominicé montre bien les choses. Je résume. Pourquoi Jésus a-t-il ignoré certaines choses? Réponse. C'est parce qu'il a appliqué toute la puissance de sa divinité à laisser son humanité dans la réalité dans laquelle elle s'est trouvée, à savoir l'humanité de Jésus. Jésus ignorait certaines choses. Et, selon sa divinité, Jésus-Christ, donc la personne du Fils, a veillé à cela. Vous savez, on peut rapprocher ça d'une autre parole les scolastiques ont parlé, mais on l'escarmente pas aussi, c'est la fameuse parole de Jésus prononcée en arabien, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la quatrième parole de Jésus sur la croix. Or, là aussi, les scolastiques ont dit, ça n'est pas possible que Dieu abandonne Dieu. Donc, il faut pas comprendre ça comme ça. Il faut pas comprendre les mots comme Jésus les a dit. Il faut voir que plutôt Jésus, sans doute, a voulu réciter un des psaumes. Et en récitant ce psaume, bon. Or, les réformateurs ont bien montré que Jésus-Christ, dans sa personne, qui est donc une personne divine, a appliqué toute sa divinité, a laissé son humanité être abandonnée de Dieu, frappée de Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu que Dieu souffre, meure, et d'une souffrance qui était en réalité la souffrance de la punition des péchés que Jésus prenait sur lui. Jésus a voulu connaître l'enfer à notre place. Jésus a voulu porter nos péchés et subir la punition de nos péchés en sa personne sur la croix. Et Jésus a appliqué sa divinité à ce que son humanité souffre vraiment cela. Et en ce sens, Dieu a voulu être abandonné de Dieu. Là, il fallait qu'en sa nature humaine, Jésus souffre les douleurs de l'enfer. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, la veille de sa mort au jardin de Gethsémané, voulait que ses troupes s'éloignent de lui. Pourquoi? C'est surtout parce que Jésus avait peur de le mourir, tout ça. Mais c'est parce que lui qui était le saint, le sans péché, ne pouvait supporter l'idée d'être abandonné de Dieu, d'être coupé de Dieu, lui qui était un avec le Père, et lui qui, dans son humanité, va se trouver abandonné du Père. Et c'est la personne divine du Fils qui, en son humanité, va être coupé du Père et qui va subir l'enfer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même un théologien catholique. C'est d'ailleurs un homme qui a un nom curieux parce qu'il était allemand, mais d'origine italienne, Romano Guardini, qui a publié, oh, il y a déjà longtemps, il y a peut-être une cinquantaine d'années, qui a publié un livre qui s'appelle Der Herr, le Seigneur. Le Seigneur. Et dans ce livre, Romano Guardini, qui est catholique, et donc postérieurement au décret du Saint-Office de 1918, puisque son livre doit être de juste après la guerre, de 1948, quelque chose comme ça, et bien Romano Guardini dit dans son livre, que je vais noter le passage, voilà, il dit, en un sens inconcevable, et c'est bien de le mettre ça, en un sens inconcevable, il descendit alors aux enfers. Enfin, c'est une chose formidable. Donc, vous voyez, il y a une réelle ignorance du Christ. Mais ce n'est pas malgré sa divinité. Mais au contraire, à cause de sa divinité. Parce que, par amour pour nous, la personne divine de Jésus a voulu que sa nature humaine, en sa sagesse relative, ignora le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Et de même, la personne divine de Jésus-Christ s'est appliquée à ce que sa nature humaine souffre sur la croix l'abandon de Dieu. Et donc, Dieu, en son incarnation, a été abandonné de Dieu, mais ça c'est le mystère même de notre rédemption, le mystère même de l'amour de Dieu. Par amour pour nous, Dieu, le Fils, a voulu supporter, subir l'abandon du Père. Donc nous nous trouvons là devant un mystère, et on comprend que Romano Guardini, dans son Der Herr, signale précisément que d'une façon inconcevable, Jésus-Christ a souffert alors les douleurs de l'enfer. Voilà, alors, vous voyez, j'ai voulu un peu insister sur ce qui manque, et à mon sens essentiel, dans cette question discutée sur le savoir de Christ. De Valence. Et je souhaite simplement que, à la fin de ce cours, ensemble, nous soyons dans une pleine reconnaissance devant cette réalité que Jésus-Christ a voulu subir. Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a tremblé au jardin de Gethsémani. Jésus, pour l'amour du monde, a voulu être abandonné de Dieu. Et il a pu vraiment s'écrier sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu a abandonné Jésus-Christ sur la croix jusqu'aux douleurs de l'enfer, jusqu'à la séparation avec Dieu? C'est pour notre salut, pour nous et pour notre salut, indéniablement au ciel et au ciel. Voilà, alors j'ai donc achevé ce cours. J'espère que cela vous donnera de l'appétit spirituel, en même temps qu'intellectuel, pour un certain nombre d'ouvrages que je vous ai signalés en passant. Et si vous pouvez tenter un peu de l'exégèse médiévale du Père de Lac, lire, si vous pouvez lire l'anglais, puisque c'est une façon de parler, le livre de David Shelton, je pense que vous aurez là des ouvertures, non seulement théologiques, mais mystiques. Au vrai sens, qu'est-ce que c'est que la mystique? C'est de pouvoir aller au-delà de nos conceptions, de nos raisons, d'aller jusque vers ce moment où nous sommes dans une sorte d'extase, d'admiration, de louange devant l'œuvre de Dieu, ce qu'il a accompli.